Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, l'Institut de France a décerné en 2001 à mon invité le Grand Prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre théâtrale. Éric-Emmanuel Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Canal Académie, la radio située à l'Institut de France, a en effet le plaisir de recevoir celui qui nous a entraînés à Valognes, en Autriche, aux côtés de Freud, dans les Évangiles avec Jésus, Ponce Pilate, la belle Claudia, dans les hôpitaux pour enfants malades avec le petit Oscar qui nous a tous fait pleurer. À Bagdad avec Ulysse, vous nous avez fait aussi rêver à Ostende, en Inde avec Milarepa, dans le Coran avec Monsieur Ibrahim, dans la tourmente de l'antisémitisme avec l'enfant de Noé, quelque part en France avec Odette Tout le Monde, au Japon avec ce sumo qui ne voulait pas grossir, et puis dans un monde entre deux, entre la vie et la mort avec l'Hôtel des Deux Mondes, mais aussi sur les pas de Mozart, de Beethoven. Et aujourd'hui, Éric-Emmanuel Schmitt, nous partons avec vous pour la Chine. Alors, vos motivations ont été lesquelles ?
La Chine m'apparaissait comme le plus lointain du lointain. J'ai mis des années avant de comprendre la pensée chinoise, à supposer que j'y sois vraiment arrivé. Et donc, il y a eu une longue fréquentation de cette autre façon de concevoir le monde, jusqu'à ce que ça me devienne familier. Je pense qu'on a tous intérêt à se confronter avec l'autre, l'autre absolu. Progressivement, au fur et à mesure que je lisais les penseurs chinois, les romanciers chinois, que je voyais des films chinois, je me suis rendu compte que non, je pouvais aussi avoir une forme d'intimité avec la Chine. Et c'est pour ça que j'ai fini par écrire ce récit, Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus.
Paru donc chez Albin Michel. Une fable, un roman, une longue nouvelle, un récit qui fait partie d'une collection ?
Oui. Au fond, ces petits textes, puisqu'on a du mal à leur donner un genre, effectivement, ces petits textes font partie d'un projet un petit peu encyclopédique. C'est pas pour rien que j'ai fait ma thèse sur Diderot. L'encyclopédisme, pour moi, est une vraie valeur. C'est-à-dire que ces textes nous emmènent à chaque fois dans une histoire avec des vrais personnages, mais nous permettent d'aborder le cœur d'une religion, puisque souvent, un des personnages est plongé dans une spiritualité. Alors, il y a eu Milarepa pour le bouddhisme tibétain, il y a eu Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran pour le soufisme, Oscar et la Dame Rose pour le christianisme, l'enfant de Noé pour le judaïsme, le sumo qui ne pouvait pas grossir pour le bouddhisme zen. Et cette fois-ci, nous sommes dans un territoire encore très très différent, c'est la Chine. Mais surtout, cette fois-ci, ce n'est pas tant une spiritualité qu'une sagesse, qu'une morale, qu'une façon de vivre ensemble, qui est celle de Confucius.
Oui, parce qu'il y a donc deux personnages principaux que vous allez nous situer, nous décrire. Non, comme à notre habitude, nous ne raconterons pas l'histoire, nous ne dévoilerons rien, parce que nous laisserons le soin aux lecteurs et aux éditeurs donc de Canal Academy d'avoir le plaisir de goûter à votre récit, à votre narration. Mais alors, je parlais de ces deux personnages principaux, un personnage qui parle à la première personne. Alors, c'est un homme, Il parle 7 langues, dont le mandarin, le cantonais, il faut le faire. C'est un homme d'affaires.
Français. Qui travaille dans le milieu du jouet. C'est-à-dire qu'il va régulièrement en Chine pour sa firme française, il va commander des jouets. Et il se rend donc dans la région du Guangdong, qui est la région en Chine où il y a les meilleures industries du plastique. On l'appelle souvent Plastic River Valley, cette région. Et lui vient pour discuter de ses commandes. Et ce Français a une technique de discussion tout à fait curieuse. C'est-à-dire qu'il a pris l'habitude d'interrompre la conversation en filant aux toilettes, histoire de faire bouillir ses interlocuteurs. Et donc, il se rend régulièrement, trop régulièrement...
C'est son droit.
au sous-sol du grand hôtel de Yunhai, où se tient Madame Ming, qui est en fait la dame pipi des toilettes masculines.
Et vous écrivez, Éric-Emmanuel Schmitt, l'endroit se muait en un laboratoire d'expérimentation métaphysique et morale où chaque mortel abandonnait l'illusion de sa puissance.
Ben oui, devant Madame Ming, tous les hommes sont égaux, que ce soit le PDG ou l'employé. ils arrivent tous avec le besoin de se satisfaire.
Et vous ne vous surprendrez toujours, Eric Emmanuel Schmitt, atterrir en Chine pour nous faire converser avec madame qui s'occupe des latrines, de grands hôtels.
Mais oui.
Mais pourquoi pas ?
Mais pourquoi pas ? Parce qu'elle est fascinante, cette Madame Ming. Très rapidement, le narrateur va rentrer en discussion avec elle parce qu'il ne veut pas perdre une occasion de parler chinois, de pratiquer le chinois. Et elle lui raconte une histoire tout à fait étrange. Elle lui parle de ses 10 enfants. Et évidemment, dans ce pays qui, depuis les années 80, a fait passer une loi et fait observer surtout une loi qui interdit aux couples d'avoir plus d'un enfant, histoire de lutter contre la surpopulation et de lutter aussi contre la famine qui surviendrait s'il y avait une surpopulation. Dans ce pays de l'enfant unique, dire qu'on a 10 enfants, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'elle est une menteuse ? Est-ce qu'elle est une mythomane ? Ou est-ce qu'elle est carrément une folle qui croit à ce qu'elle raconte ? À partir de là, puisque ce personnage a plus de questions, Madame Ming, que de réponses, le narrateur va se passionner pour elle.
Oui, parce que déjà, dans le titre, vous en dites beaucoup, mais pas assez, les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus.
On va découvrir que ce n'est pas tout à fait ça.
Voilà.
C'est plus compliqué que
voilà,
ça.
Voilà, c'est plus compliqué
ah
que
ben
ça.
Je joue aussi avec le titre, c'est-à-dire le titre fait croire quelque chose et l'histoire va montrer autre chose.
Entreprend un autre chemin. Justement, page 20 de votre ouvrage, vous nous faites la situation de la natalité en Chine. Il faut peut-être mieux que ce soit vous qui lisiez, non ? Ce serait sympathique.
Un matin, je faussais compagnie aux deux commerciaux de Pearl River Plastic Production et pendant qu'à l'étage, ils bouillaient d'inquiétude au sujet de mes commandes, je bavardais au sous-sol. En cherchant dans ma veste une pièce de pourboire, je laissai une photo glisser de ma poche. Madame Ming la ramassa, sourit en découvrant le cercle familial. « Ce sont vos enfants, monsieur ?»« Oui. »« Et combien en avez-vous »« 2, par chance. Une fille, un garçon. Je n'en espérais pas davantage. » Dépasser le but n'est pas l'atteindre. Elle me rendit le cliché. Par politesse, je me sentis obligé de lui retourner sa question. « Et vous ?»« J'en ai 10. »« Pardon ?»« J'ai 10 enfants. » Sur le coup, je crus que ma maîtrise du cantonais chancelait. Par sécurité, je répétais le chiffre 10, en mandarin, en anglais. À chaque fois, elle confirma de la tête. Incrédule, je déployais mes doigts en éventail. 10 ! Pour me tranquilliser, elle énuméra les prénoms. Ting Ting, O, Daxia, Kun, Kong, Limei, Wang, Ru, Zhu, Shuang. L'amour que ces vocables éveillaient en elle, illuminant ses yeux, gonflant ses traits, rendit son visage un instant juvénile. Sans commenter, j'esquissai une grimace admirative de circonstance, claquai les talons, puis dardard montait rejoindre les négociateurs. J'étais abasourdi. Quel mensonge outrancier ! Se figurait-elle que j'allais la croire ? M'estimait-elle stupide ? Chacun savait, même un touriste dépourvu de cervelle, que pour dompter la démographie, l'État chinois, depuis des décennies, interdisait aux couples de mettre plus d'un enfant au monde. Pendant le déjeuner que m'offrirent mes deux interlocuteurs de Pearl River Plastic Production, gardant en mémoire la forfanterie insensée de Madame Ming, je m'assurai auprès d'eux qu'on ne faisait pas d'entorse à la loi de l'enfant unique. Des exceptions, un assouplissement. Dans certaines provinces, au cas où l'époux et l'épouse vivent sans fratrie, on autorise un second enfant. Oui, et à la campagne, quand une fille naît, les paysans conservent le droit d'essayer d'obtenir un garçon. « Pourquoi un garçon ?» décochai-je en feignant l'ahurissement. « Parce qu'un garçon travaille fort au champ, puis il prendra soin de ses parents. »« Ah bon ? Les filles cultivent l'ingratitude ici ?»« Non, mais dès que la fille part dans sa belle famille, les siens la perdent. »« Et qu'arrive-t-il lorsqu'une jeune mère tombe enceinte ?»« Elle avorte. »« Et si le bébé a déjà vu le jour ?»« Elle paye une amende substantielle. » Une Chinoise peut-elle avoir 10 enfants ? Les deux commerciaux ululèrent, les paupières closes en tapant la table avec le plat de la main. Crispés, bouche ouverte, ils devinrent plus cramoisis que le cul d'un singe, sous l'effet des spasmes qui secouaient leur buste. Grains de riz, miettes de porc, sauce aux haricots noirs remontèrent derrière leur langue, remplirent leurs joues, gagnèrent les lèvres, annonçant le vomissement. C'était prévisible, je l'avais cherché. Un businessman qui rit, rit toujours trop. Alors un businessman chinois.
Et alors, est-ce que Madame Ming bluffe Ou est-ce qu'elle expose une vérité incroyable? Ces deux businessmen ne peuvent pas y croire. 10 enfants en Chine aujourd'hui, c'est quelque chose. Alors, vous trouvez des raisons au lagoré, comme vous dites, de Madame Ming, en disant, Madame Ming bluffait, mais légitimement. Parfois, le sort cogne de manière si abrupte qu'il suffit d'une pointe de fantaisie pour l'attendrir. Alors, vous dites, oui, je comprenais, son besoin de s'évader, de partir, de respirer un autre air. Oui, dans cette prison, l'illusion demeurait le ciel par lequel on s'échappe. Le roman de ses 10 enfants l'a sauvé. Donc, alors, vous nous entraînez sur la piste, hein, de le croire ou de ne plus la croire. Alors,
forcément, comme toutes les femmes chinoises, elle est frustrée. Imaginez quand même un peuple qui, depuis 2500 ans, avec Confucius, cultive les valeurs familiales et pour lequel il n'y a rien de plus important que la famille. Tout d'un coup, l'État dit « Non, vous n'aurez qu'un enfant ». Renoncer à ce rêve d'avoir une famille, des enfants, c'est quelque chose
de terrible.
Alors, comment gérer cette frustration? Mon narrateur a l'impression que Madame Ming invente. On va découvrir que c'est beaucoup plus complexe que ça.
Oui, alors on parlait de ce troisième personnage qui va faire son apparition justement dans la bouche de cette Madame Ming. Et quand on tombe sur des phrases telles que page 56, « L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la tient », ou encore page 72, « Celui qui déplace la montagne commence à enlever les petites pierres », alors là, c'est le régal du philosophe que vous êtes et que vous avez toujours été, et que vous resterez toujours, à vitam aeternam.
Oui, bien sûr, Madame Ming émet des perles de sagesse qui sont des perles de Confucius. C'est-à-dire que le héros va découvrir au bout d'un temps que cette femme qui a l'air folle, qui est complètement excentrique, qui est complètement fantasque, au fond distille une sagesse qui est celle de la Chine ancienne, une sagesse qui a 2500 ans. Et il va se rendre compte que cette sagesse a quelque chose à lui dire, à lui l'occidental. Moi, ce qui m'a frappé dans Confucius, c'est qu'il y a quelque chose de plus important que la vérité. C'est l'harmonie. Alors nous qui sommes dans des peuples judéo-chrétiens, nous avons l'idéal de la vérité parce que nous sommes des sociétés qui ont rapport à une transcendance, à Dieu. Donc on doit la clarté à Dieu. On est des êtres du péché. Alors qu'en Chine, il n'y a pas de péché, il y a la faute. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de Dieu. Conclusion, c'est l'harmonie sociale qui compte. C'est le groupe, c'est la communauté. Et donc, il y a cette idée chez Confucius qu'il faut parfois se taire ou mentir. C'est-à-dire que le souci de l'autre, le tact, la délicatesse, l'harmonie sociale vont être plus importantes que la vérité. C'est choquant pour nous, dans notre civilisation. Et puisque c'est choquant, c'est intéressant.
Pour atteindre l'harmonie, écrivez-vous page 89, entre soi et les autres, comme vous le disiez il y a un instant, il faut analyser les pensées, les filtrer en refoulant certaines. La vérité ne constitue pas un but, elle n'a d'intérêt que si elle sert. Or, la plupart du temps, elle freine, puis elle détruit. C'est tout un passage captivant par rapport à cette vérité qui peut faire mal, qui peut blesser, qui peut tuer.
Je pense que chacun de nous s'est posé cette question quand on est porteur d'une mauvaise nouvelle et qu'on doit l'annoncer à quelqu'un. Alors moi, j'avoue que je serais un peu entre l'Orient et l'Occident sur cette question-là. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, on ne peut pas tout dire à l'autre. Parfois, quand on porte certaines mauvaises nouvelles, celles d'une maladie ou celles d'une trahison ou celles d'un échec irrémédiable, il ne faut peut-être pas balancer ça tout à trac à l'autre. Le souci de l'autre doit l'emporter sur le souci de la vérité. Mais alors, je garderai néanmoins, et ça c'est mon aspect judéo-chrétien, je garderai néanmoins la volonté de dire la vérité. Donc à ce moment-là, ce que j'entamerai, c'est un travail avec l'autre qui va me permettre un jour de lui dire la vérité.
Alors ce travail, c'est justement votre héros qui va l'entreprendre.
Exactement.
Au contact de Madame Pipi, Madame Ming.
On va découvrir que lui aussi est un sacré menteur. Il déteste le mensonge, mais il est aussi un sacré menteur. Tout simplement parce qu'il lui aussi a des frustrations profondes. Je l'ai choisi voyageur de commerce, mon héros, parce que souvent les voyageurs de commerce sont des gens qui fuient leurs soucis. Comme ils sont toujours affrontés à des problèmes extérieurs, des nouvelles langues, des nouvelles situations, c'est une manière au fond d'éviter l'introspection, d'éviter l'exploration de ses propres douleurs ou de ses frustrations. Il est comme ça, ce voyageur, actif, dynamique, mais en fuite. Et la rencontre avec Madame Ming et par derrière la rencontre avec Confucius va l'obliger à se mettre en face de lui-même. Il va se rendre compte qu'il ment alors qu'il prétend préférer la vérité au mensonge. Et il va se rendre compte qu'en fait, sur certains points, il est assez malheureux et que sa vie manque de quelque chose.
Éric-Emmanuel Schmitt, changer le monde, c'est justement faire ce travail sur soi-même, ce travail d'introspection.
Je pense que changer le monde, c'est une double tâche. C'est d'abord intervenir dans le réel pour le rendre meilleur, pour le rendre plus juste, pour le rendre plus beau. Et puis, quand on ne peut pas changer la réalité, on peut changer sa pensée de la réalité.
Et sa façon de voir le monde.
C'est-à-dire que je pense vraiment que nous avons un pouvoir sur nous-mêmes aussi, qui consiste à aborder les grands événements de la vie, inébranlables, intouchables, comme la vie, la mort, la maladie, l'amour. Mais nous pouvons penser les choses différemment. Nous pouvons travailler sur notre pensée. Et c'est pour ça que la rencontre de philosophies différentes, de sagesses différentes, est pour moi essentielle dans mon travail d'écrivain.
Et comme le disait Théodore Monod, c'est peut-être ainsi que nous construirons enfin l'humanité, l'humanité qui est devant nous.
Ah, je suis totalement d'accord avec cette phrase. Pour moi, l'humanité, c'est une cible.
C'est une cible et les hommes ne sont pas encore des hommes, ce ne sont que des hominidés.
Oui, des bipèdes sans plumes.
Alors, essayons de nous parer de ces plumes que nous avons apportées de notre main et que les auditeurs et lecteurs de Canal Académie ont apporté de livres. Alors, je rappelle le titre, Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eus. C'est donc paru chez votre éditeur fétiche de toujours, Albin Michel, toujours fidèle à vos écritures, cher Éric-Emmanuel Schmitt. Est-ce que, Éric-Emmanuel Schmitt, vous avez fait un petit tour au musée Guimet? Est-ce que dans votre jardin, vous avez un rocher de lettrés qui sont absolument somptueux? Ce sont des rochers fabriqués par la nature, ce sont aussi des floraisons minérales qui ont été un peu travaillées par la main de l'homme, ou alors qui sont intactes telles que la nature les a, et c'est un bonheur parfait.
J'ai besoin de découvrir ça.
Étant lettré, parlant des jardins, parce que justement, il y a toute une page qui est consacrée aux jardins.
Oui, Madame Ming a un fils, Wang, qui a inventé le jardin imaginaire. Il a remarqué que dans la littérature chinoise, les plus beaux jardins racontés par les poètes avaient disparu depuis des centaines d'années. Et il propose ses services aux Chinois en leur disant « Je vais vous créer un jardin de mots ». Donc comme ça, c'est très démocratique. Même le pauvre peut avoir un parc sublime entretenu par 40 personnes. C'est le jardin que va lui décrire Wang. Donc il a inventé voilà, le jardin poétique, le jardin virtuel, le jardin de mots.
Et alors, chacun des enfants, des 10 enfants de Madame Ming, vous permet, vous, Éric-Emmanuel Schmitt, en tant qu'auteur, d'aller dans toutes sortes de réflexions, de fantaisies créatrices.
Oui, parce qu'au début, ça a toujours l'air aberrant ce que raconte Madame Ming. Par exemple, elle parle de sa petite Daxia qui avait un seul but dès son enfance, qui était de tuer Madame Mao. Voilà, et tout d'un coup, cette Daxia qui assiste à la télévision au procès de la bande des quatre, dont Madame Mao, se passionne pour ça. Voyant que Madame Mao n'est pas condamnée à mort, elle est furieuse et elle s'entraîne pendant des années à toutes les techniques pour tuer quelqu'un. Et un jour, elle apprend que non seulement Madame Mao est morte, mais qu'en fait, elle était morte 2 ans avant que la presse ne le dise. Et donc, elle se trouve privée de son destin. Sa vie s'effondre. Alors évidemment, son père, par gentillesse, va lui proposer une liste d'autres dictateurs qu'elle pourrait auxir. Mais non, c'était Madame Mao. Et c'est là que Madame Ming intervient avec toujours la sagesse de Confucius en lui disant « Quand tu rencontres quelqu'un de remarquable, imite-le. Quand tu rencontres quelqu'un de médiocre, cherche sa médiocrité en toi. » Et elle fait comprendre à cette petite Daxia qui veut tuer Madame Mao qu'elle ne doit pas tuer la Madame Mao qui est à l'extérieur d'elle-même, mais la Madame Mao qui est à l'intérieur d'elle-même. Parce qu'au fond, elle a le même tempérament que Madame Mao, égocentrée, colérique, impétueuse. Et quand cette petite Daxia va comprendre cela, évidemment, elle va grandir.
Et chacun des 10 enfants de Madame Ming va nous permettre à nous aussi, lecteurs, de grandir en vous lisant Éric-Emmanuel Schmitt et en apprenant grâce au parcours de chacun de ces 10 enfants de Madame Ming. C'est le but ?
Le but, le but, c'est toujours de grandir. Et en même temps, je trouve qu'on grandit parfois avec de tout petits personnages, comme Madame Ming, qui est une humble, une humiliée, puisqu'elle est au sous-sol du grand hôtel, elle est Madame Pipi, mais en même temps, elle est porteur d'une sagesse, elle a un amour de la vie, elle a beaucoup de tendresse à donner aux êtres, qu'ils soient réels ou imaginaires.
Eh bien, nous vivrons aux côtés de Madame Ming de magnifiques moments, grâce à vous, Éric-Emmanuel Schmitt. Est-ce que l'un des fils de Madame Ming chante ? Vous nous surprenez chaque fois dans vos livres, mais c'est à moi de vous surprendre maintenant, en vous faisant écouter la voix extraordinaire d'un jeune garçon de 10 ans qui aurait pu être justement l'un des 10 enfants de Madame Ming. Écoutez. Nous venons donc d'écouter, en compagnie d'Éric Emmanuel Schmitt, la voix extraordinaire d'un jeune garçon qui va avoir 11 ans et que va nous présenter maintenant Madame Cho, qui est présidente du Comité international de la jeunesse. Madame Cho, bonjour. Alors, expliquez-nous, vous vous occupez donc de promouvoir cette jolie voix. Cette voix appartient à qui ? Parlez-nous de ce jeune garçon.
Voilà, c'est pas hasard. Moi, je m'occupe pas d'un enfant si jeune. Je m'occupe des jeunes artistes à partir de 16 ans, 17 ans, bon, les élèves de, par exemple, CNSM, concertiste éco-normal. Depuis des années, j'ai beaucoup aidé tous ces jeunes artistes. Mais ce petit Liu Shen, c'est pas hasard. Il y a 3 mois, 4 mois, je suis allée jouer avec Olivier Charlier dans le Grand Théâtre de Pékin. Il y a le festival organisé par CNS, Conservatoire supérieur de Beijing. Donc, on est joué là-bas. Pendant le repas, le directeur m'a dit que, bon, nous dit au revoir, nous remercier. Et puis, à propos, il dit que nous avons un petit génie. Ah, je dis, je fais pas attention. Bon, et je dis, comment génie? 10 ans seulement. Il chante très, très bien. Bon, je fais pas attention. En montant en avion, il y a un grand élève, couru, me porter le CD. Et je me prends ça dans mon sac, je rentre en France. Quelque temps après, un jour, je suis un peu libre, j'écoute. Ça me fait peur, le chat de poule qui pousse. Je me dis, comment ça se fait un enfant chante si bien? Je téléphonais tout de suite à son père. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il dit, non, Madame Chou, l'enfant est déjà invité en Europe une fois. En passant de Paris, il a passé l'Opéra Garnier. Devant l'Opéra Garnier, il est tellement ému parce que sa vie antérieure, il a vu tout ça. Mais malheureusement, le jour n'est pas ouvert, la porte. Non, il ne peut pas rentrer. En rentrant, l'enfant dit toujours à son père, « Je veux rentrer dedans, je veux rentrer dedans parce que dedans, je connais. » Oh, quand j'entends ça, je dis son père, dit, « Bon, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour moi. » Donc, moi, je suis d'accord, je le fais venir, il faut faire un concert pour lui. Mais il ne faut pas changer la voix, parce que maintenant, 10 ans, presque 11 ans, c'est délicat. Quand il change, il peut que cette voix n'est plus petit soprano.
Donc,
il
faut se dépêcher. C'est une voix de soprano.
Ça fait la voix de soprano, oui.
Et quel répertoire, parce que je précise à nos auditeurs que Madame Cho est elle-même musicienne, elle est pianiste. Concertiste international, vous donnez des concerts un peu partout dans le monde, et donc vous avez l'oreille musicale. Donc merci, si la voix de ce jeune garçon vous a plu, c'est qu'il a un talent bien particulier et bien à lui.
Bien particulier, exactement, oui.
Très bien. Alors, quel genre de répertoire
il chante tous les opéras, Mozart, Vivaldi, il y a tout, hein.
Oui, donc des rôles tenus par des femmes, généralement.
Oui. Seulement mes femmes, voilà.
Oui, mais alors comment lui, jeune garçon, se sent-il en disant des mots mis dans la bouche de femmes? C'est pas gênant pour lui, pour son développement, son évolution?
Tout ça vient naturel. Son père, sa mère m'a dit, tout est naturel. Jusqu'à présent, il n'y a pas un professeur, hein. Aucun professeur ne veut apprendre. Mais bien sûr, ils vivent dans le conservatoire supérieur de Pékin. Mais pourtant, il y a tellement d'enfants vivent tous les jours dedans. Mais c'est lui tout seul. Il a l'âge 3 ans, un jour, il s'amusait au lit. Son père m'a raconté, s'amusait. Tout d'un coup, il reste comme sur la scène, debout, et il chante italienne, l'opéra italienne. Et le père, sa mère, tous les deux, qu'est-ce qui passe de l'enfant comme ça? Il sort tout seul.
À 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce jeune Liu Shen maintenant? Qu'est-ce que vous souhaitez pour lui? Là, vous êtes au micro de Canal Academy, c'est un jeune garçon. Alors, insistez bien sur le fait que ce jeune garçon est connu sur le territoire chinois. C'est une véritable petite vedette là-bas. Racontez-nous.
Son père est très discret. Il ne veut pas faire beaucoup de... Il est trop jeune. Il ne faut pas faire trop... Surtout commercialiser. Non, ce n'est pas bon pour lui. Il garde sa pureté. Ce que je te conseille aussi. Lang Lang l'accompagnait, chantait le jour de l'an cette année pour toute la Chine. Je dis à Lan, fais attention, hein, faut pas faire trop de choses. Bon, on le règle un peu, c'est normal, mais faut pas commercialiser, faut pas, sinon on va l'abîmer.
Et alors, comment ce jeune garçon avec qui vous parlez, avec qui vous entretenez une belle relation, vit-il tout ça? C'est un jeune garçon qui vit dans sa planète, sur son petit nuage, il a les pieds sur terre. Comment est-il? Écrivez-le nous.
Il est très mignon, il est très simple. Et les parents, ce sont des gens très simples aussi. Papa, c'est l'employé de conservatoire supérieur de Beijing. Ce sont des gens intègres, très simples. Donc, l'enfant restait simple aussi. Bon, certainement, avant qu'il change la voix, on va faire quelque chose, mais je vais bien le protéger.
Vous pensez qu'il va changer sa voix? Sa voix va muer vers 12-13 ans ou plus tard?
Normalement. Mais par contre, j'ai rencontré quelqu'un, une Française, chanteuse. Elle m'a dit, en France, ça existe, les gens comme ça. Et en grandissant, et avec une méthode, elle ne changera jamais la voix. Je ne sais pas, c'est vrai, c'est pas vrai. De toute façon, quand il viendra, on va présenter cette chanteuse à lui pour lui dire comment changer pas de voix, si c'est possible.
Merci, Madame Cho Ching-ling, de nous avoir présenté la voix incroyable de ce jeune garçon chinois de 10 ans, Liu Chen, que nous allons avoir le plaisir d'écouter dans un nouvel extrait. Mais avant de nous séparer, Madame Cho, je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous êtes diplômée du Conservatoire de musique de Shanghai, que vous avez été professeure au Conservatoire central de musique de Pékin, que vous êtes pianiste concertiste à l'Orchestre symphonique de radiodiffusion centrale de Chine, que vous donnez des concerts un peu partout en France et à l'étranger, que vous participez régulièrement à des jurys, à des comités d'honneur de concours internationaux. Vous êtes, Madame Cho, une pédagogue avertie puisque vous avez publié un manuel, La méthode de piano, en 2 volumes, qui a été classée parmi les 10 meilleures méthodes de piano par le monde de la musique. Vous avez fondé par ailleurs le Comité international de la jeunesse pour la promotion des arts et de la culture, pour favoriser justement cette coopération culturelle sino-française et aider ainsi de nombreux jeunes artistes, comme le jeune Liu Chen. Votre influence dans le domaine de l'éducation musicale, des échanges culturels est remarquable, autant en France qu'en Chine. Vos efforts pour la diffusion de la musique vous ont d'ailleurs valu la médaille d'argent Mozart de l'UNESCO, en reconnaissance de tout cet engagement de votre part en faveur de la promotion des arts, de la créativité, des échanges artistiques, et puis pour tout votre dévouement à transmettre à notre jeunesse la passion de la musique. La Chine vous a également rendu hommage en distribuant des timbres à votre image parmi les 100 personnes les plus connues par leur métier. Alors, Madame Cho Ching-ling, merci d'être venue jusqu'à nous, jusqu'au micro de Canal Academy, et nous avons donc le plaisir d'écouter une nouvelle fois votre jeune protégé de 10 ans, Liu Chen. Merci.